Tropica.
Tu montes, on monte. Tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on se noie ensemble.
Le soir, c'est Couleur Tropicale.
Dire les raisons que nous avons de nous révolter.
Génération consciente.
Seule la lutte libère.
Vous allez commencer par éveiller ma curiosité.
Couleur Tropicale.
Mais là, vous captez mon attention.
Couleur Tropicale avec Claudicia.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Brittany Lenga. Bonne arrivée, la famille nombreuse. Le 16 février 2021, nous quittait Tonton David, artiste incontournable du reggae, du ragamuffin de la décennie 90. Tonton David, originaire de l'île de La Réunion, où il est né le 12 octobre 1967. Dans l'histoire du reggae français, du reggae francophone en général, David était un précurseur. Nous en parlerons avec notre invité dans quelques instants. Précurseur dans le sens où le reggae et le raga de cette zone du monde et les artistes qui s'y expriment lui doivent beaucoup. Tonton David affirma toujours son appartenance au monde afro au pluriel, les cultures qui s'y attachent, tout en étant parfois, au fil du temps, l'archétype du franchouillard, dans le bon sens du terme, du bon français, fier de son terroir. En ce jour, nous recevons Alexandre Grondeau. Il vient de faire paraître, aux éditions La Lune sur le Toit, un ouvrage majeur sur Tonton David, artiste iconique. Tonton David, en Couleur Tropicale.
Car je suis sûr, sûr, qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain, quelque chose de ton parent. Car je suis sûr, sûr, qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Il est temps que la musique joue et que la basse résonne. Nous sommes dans la zone rouge, le système nous assomme. Maquillage, des bavures policières, falsification de l'histoire. Mais je suis sûr, sûr, qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Quelque chose ne tombe pas rond. Car je suis sûr, sûr, qu'on nous prend pour des cons, mais j'en suis certain. Originaire d'une île, classé comme Tom, assistant sans calcul, mon œil de la métropole, par si le club mais par l'un des maisons.
Certains, c'est tube et c'est culte, c'est un classique. 1994, Tonton David. Alexandre Grondeau, merci d'être ici, là, avec nous, pour nous parler de cet homme qui a porté les cultures afro, culture musicale, et pas seulement. Un homme qui, j'ai même envie de dire, qui était tellement ancré dans l'universel.
Ben merci à toi et à Couleur Tropicale de me recevoir. C'est vrai que Tonton David, c'est quelqu'un qui est rentré dans la famille des Français de toute origine, de toute obédience, de toute religion dans les années 90 et qui n'a jamais véritablement quitté leur cœur alors que pourtant il avait disparu des radars pendant une quinzaine d'années. Et ça, c'est assez incroyable de voir son côté universel.
Est-ce que l'on peut dire également, lorsqu'il dit « j'en suis sûr et certain qu'on nous prend pour des cons », c'est le côté râleur des Français, je parlais de son côté bon français qu'il était aussi.
C'est exactement comme ça qu'il a écrit ce morceau, puisque au moment où il trouve les paroles, c'est un matin, il est dans un café parisien, il écoute ce qui se dit à droite et gauche. Et c'est une des particularités de David, hein, d'être quelqu'un de très fin, capable de comprendre ce qui se passe dans l'air du temps et de trouver les choses. Et il entend ça, ouais, on nous prend vraiment pour des cons. Il le met sur un lyrics, et ce lyrics va devenir le fameux refrain dont tu parles. Ce qui est assez étonnant, puisque j'en parlais avec Yovo au moment d'écrire le bouquin, c'est que quand il s'agit de sortir le single de cet album Allez leur dire, eh bien David estime que ouais, les Français ne sont pas prêts pour sortir un single avec une insulte telle que con, quoi. Et Yovo, lui, est persuadé, il est certain que au contraire il faut le faire, et donc il va faire écouter contre l'avis de David ce morceau, ce single. David, lui, pensait plutôt à un autre single, et la maison de disque l'écoute, ils envoient ça à Énergie, ils envoient ça à quelques radios, et boum, c'est parti.
Ça devient un succès extraordinaire. Puisque tu parles de Yovo, il faut que nos auditrices et auditeurs sachent qui il est. Yovo, c'était le chef d'orchestre de David.
Exactement, c'est un bassiste qui est recruté par Junior, qui est le premier manager officiel de David, et lorsqu'il compose le second groupe, hein, le premier groupe de David c'est le Ragga Dub Force, quand il compose le second groupe, il demande à Yovo d'être le chef d'orchestre, et c'est Yovo qui correspond à la plus grande période musicale de David sur ses albums qui ont eu le plus de succès.
Alexandre Grandeau, tu viens donc de faire paraître aux éditions La Lune sur le Toit, Tonton David, le prince des débrouillards. Est-ce la condition sociale qui est la sienne? On sait que c'est sa mère qui l'a élevé, et puis parce qu'il est parti de rien, de très loin, et il est devenu justement cette star, ce premier artiste de reggae français à devenir star dans ce domaine musical-là. Est-ce pour cela que tu qualifies du prince, le prince des débrouillards, pardon?
Écoute, moi quand j'avais 12 ans, c'est le moment où le Peuple du Monde est sorti. J'avais 12 ans et j'étais...
90 donc ?
J'étais dans un quartier qu'on appelle politique de la ville aujourd'hui, ouais. De manière un peu soft, hein, et cosmétique. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, tout d'un coup, on a eu le premier Rasta noir à la télé qui était venu nous enseigner, nous parler de ce qu'on vivait dans les quartiers populaires. Et pas du côté misérabiliste. Il nous disait la condition de ce que c'était les débrouillards. Et une des choses qui est assez incroyable et passionnante avec David, c'est qu'effectivement, tu l'as dit, il est de petites conditions. Il est même peut-être même plus que de petites conditions parce qu'il a connu...
Caflabou, il parlait de Caflabou.
Et exactement. Ouais. Il a vraiment connu ce qu'il y a de pire. Et on va dire que sur l'échiquier de la vie, il y a 0% de chance qu'il s'en sorte et qu'il ait le destin qu'il ait. Et pourtant, il va avoir ce destin incroyable, fait de haut, de bas, de très bas, de très haut. Et donc, pour le coup, le prince des débrouillards, c'est parce que pour moi, la philosophie de David, c'est il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Quelle que soit ta condition.
Exactement. Alors j'ai employé l'expression de caflabou, faut que j'explique là aussi à celles et ceux qui nous écoutent. Les caf, donc, ça vient de l'expression sud-africaine d'ailleurs, kafir, hein, donc c'est une insulte. Et ce sont donc les noirs, les descendants d'esclaves, les caf. Et alors il y a les caf, et lorsque tu es caflabou, ça veut dire que tu es vraiment
plus bas.
Tu es plus bas que tout, tu n'as rien. Le prince des débrouillards, celui qui devient la star que l'on sait. Alors c'est vrai qu'il est le premier français reggae à atteindre ce niveau-là de popularité, de notoriété. C'est vrai qu'avant lui, nous n'avions vu à la télévision qu'Alpha Blondy. Et encore, on l'a vu une fois, on l'a vu dans le Grand Échiquier de Jacques Chancel dans les années, fin des années 70, début des années 80. Mais
on a entendu un peu Erika.
Erika, c'est vrai.
On a un petit peu entendu avec son premier titre, trop de blabla. On a vu passer aussi un peu Yod qui a émergé.
La doudou, ouais.
Exactement. Mais c'est vrai que la particularité de Tonton David, c'est que tout d'un coup, la France des quartiers populaires s'entiche, tombe amoureuse de ce grand rasta noir qui ne paye pas de mine, qui a beaucoup de bagou, qui a un charisme fou et qui chante de manière très simple ce qu'elle vit.
C'est vrai. Nous sommes le 6 février, hasard du calendrier. Le 6 février venait au monde Bob Marley. Alors aujourd'hui, en Jamaïque et en Éthiopie, c'est la journée Marley. Et j'ai envie de dire que c'est un bon présage. Comment est-il venu, lui, au reggae? Il aurait pu être aussi, dans cette décennie 90, il aurait pu être plus rap.
C'est vrai que d'ailleurs c'est quelque chose qui va le poursuivre pendant longtemps, puisque il fait partie de la fameuse compile Rap Attitude qui est constitutif du début de l'évolution, en tout cas du succès des musiques urbaines, qui est fondatrice en fait.
Mais oui.
Et pourtant c'est un titre reggae. À l'époque, rap et reggae en fait étaient cousins germains. Les artistes se connaissaient, étaient dans les mêmes soirées, avaient les mêmes copines, les mêmes potes, les mêmes vendeurs de weed et tout. Donc finalement il y avait comme une sorte de famille d'underground qui existait. C'est vrai que artiste reggae, c'est assez fou parce qu'il va véhiculer avec lui les valeurs panafricanistes du reggae,
ouais.
Les valeurs de petites conditions. De révolte contre l'oppression, de lutte contre le colonialisme. Et pourtant, le français lambda, le franchouillard, comme tu disais,
ouais.
Va faire fi de tous ces débats-là qui pourraient le choquer et va l'adorer, quoi. Va carrément considérer que c'est quelqu'un de la famille.
Tu parlais de ce cousinage entre le reggae et le rap et cette compilation Rap Attitude, parce qu'effectivement c'est le titre de David qui est le titre
phare.
C'est le titre phare.
Ouais,
c'est le titre reggae qui est le titre phare d'une compilation. Alors c'est Benny qui avait
Benny voilà, pas.
Exactement. Et ce qui est incroyable, c'est que le cousinage n'empêche pas les bagarres entre les uns et les autres. Et tu racontes dans le livre justement ce moment où contre le NTM au grand complet, c'est comme ça que tu le dis. Ils vont y avoir une bagarre, quoi, de gars un peu éméchés.
C'est ça, une bagarre en after. Je raconte, parce que bon, moi je suis fondateur de reggae.fr, donc j'appartiens plutôt à ce mouvement-là.
Oui.
Et je dis, c'est peut-être la dernière fois que le mouvement reggae a pris le pas sur le mouvement rap. Bagarre, pas ultra violente, parce que ce soir-là, on a des gars de chez David qui sont armés.
Rue de Lyon.
Voilà, lourdement armés. Et que ça va juste être un échange de baffes. Alors, j'ai tellement entendu de versions de cette histoire que je peux pas dire qui gagne à la fin.
C'est ce que tu dis dans le livre.
Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être la dernière fois que le reggae a pris le pas sur le rap, et puis les deux styles de musique sont partis dans deux dimensions un petit peu différentes.
Tu as évoqué le panafricanisme qui était vraiment chevillé au corps de David et qu'il exprimait lorsqu'il le pouvait, lorsque l'on acceptait de l'écouter également. Je voudrais qu'on écoute David nous parler justement de son inspiration, du titre Peuple du Monde, que nous écouterons et on se retrouve dans un instant.
Dans Peuple du Monde, j'ai mis un peu tout ce que j'avais envie de dire. C'est pour ça que dans Peuple du Monde, il y a beaucoup, beaucoup de textes. Et puis j'avais envie, alors je me suis dit, tiens, on va mettre tout d'un coup. Et c'est pour ça que Peuple du Monde, c'était une citation de Marcus Garvey. Marcus Garvey qui était jamaïcain, qui était ce militant, journaliste, qui avait fondé avec Kwame Nkrumah la compagnie, une compagnie de navigation. Et il disait que tous les Noirs partout à travers le monde devaient être actionnaires de cette compagnie pour pouvoir rentrer en Afrique. Et c'est un grand rêve qui doit se poursuivre au moins dans nos esprits.
Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Que tu sois dans la ville ou bien à la campagne, sache qu'il y a de nouveaux DJ qui vont chauffer les danses. Avertissement pour tous les sans-voix dans les parages, ne les testez pas malheureux, il va y avoir de la casse. David au micro sur le rythme, très très relax. Je suis méchant sauvage, j'écrase partout où je chatte. Je donne beaucoup de respect pour tous les boss de la capitale. J'assume tout ce que je dis, je suis un jeune responsable. Prends garde à la tentation car grands sont les boulevards du mal. Tous les politiques ne sont que des canailles. Le crime, la pression, la police rendent la vie couchale. Émancipe-toi, c'est comme moi tu es là. C'est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Dédicacé pour Mosaïen Gambé, autour d'un drapeau il faut se rassembler. Le rouge pour le sang que l'oppresseur a fait couler, le vert pour l'Afrique, man et ses forêts, jaune pour tout l'or qui nous ont volé. Non, parce qu'on n'est pas blanc, on est tous un peu plus foncé. Symbole d'unité africaine, de solidarité. Noir et blanc en son faisant, c'est tonton David bien DJ. Ça va. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus.
Peuple du Monde, le titre que l'on retrouve sur la compilation Rap Attitude, sorti en première instance sur Rap Attitude et puis sur la production suivante, le premier album de Tonton David, le Blues des Racailles. Le Blues des Racailles, qui est le premier album. Et alors, ce titre-là, avec issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, c'est devenu une expression aujourd'hui qui a donc toujours cours, puisque certains disent, pas seulement parce qu'on est afro, hein, ouais, issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, dans une conversation lambda, c'est dire à quel point David a marqué également les esprits et les imaginaires à travers cette chanson-là.
C'est ça, alors ce qui est très marrant, c'est que quand il raconte ce moment où il écrit le lyrique, bah déjà il fait référence à Steel Pulse, puisque Steel Pulse avait déjà utilisé le discours de Marcus Garvey, et c'est quelqu'un qui a une connaissance musicale vraiment importante, David. Donc ses influences au niveau britannique, c'est Aswad, c'est Steel Pulse, c'est donc des groupes très conscients, très engagés au niveau de la lutte pour la défense des droits des Noirs, des Afro britanniques, à être les égaux des Britanniques classiques. Et donc pour le coup, c'est vrai que quand il met ces mots sur cette musique, ça prend feu. Mais est-ce que il aurait imaginé que derrière le plus grand trio de comiques français parodie ce titre et fasse les meilleures ventes de l'année? Impossible. D'ailleurs...
Tu parles des Inconnus.
Bien
hein.
sûr. David rentre tout de suite dans une sphère qui est assez incroyable, parce que les Inconnus, il faut imaginer, on était sur le plus gros trio, mais c'est le plus gros groupe de humoristes de l'époque. Et ils faisaient des millions et des millions de vues à la télé.
C'est clair, non, mais c'était assez impressionnant. Et on se souvient évidemment tous et toutes de cette parodie. Le titre « Peuple du monde » témoigne, et tu le disais, à la fois de la culture de David, culture reggae, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'était un garçon qui déjà, dès son plus jeune âge, était politisé. On l'a dit, ce n'est pas quelqu'un qui a fait de grandes études, dans le sens où il n'est pas agrégé d'histoire ou autre. Et... en lisant ton livre sur ton David, à la mémoire de David, je me suis interrogé sur le monde musique urbaine, comme on dit aujourd'hui, et de tous les artistes. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait des artistes dans cette sphère-là qui aient cette connaissance, cette compréhension de la politique, du monde dans lequel ils vivent, et surtout qui aient cette conscience d'exprimer ce qu'ils sont, sans juste penser à « faut que je fasse attention parce qu'il faut que je fasse de l'argent ».
C'est une excellente remarque. C'est une excellente remarque. Il y a peut-être il y a plusieurs explications. La première qui me vient à l'idée, c'est que David est un artiste qui vient du mouvement reggae. Et ses valeurs, cette culture panafricaniste, de lutte contre l'oppression, de toutes les formes de colonialisme... c'est sa référence directe. Il a beaucoup lu, même s'il n'a pas allé à l'école très loin. Ça ne l'a pas bloqué dans ses lectures. Il découvre tout un tas d'auteurs. Il lit les mémoires de Mandela. Il lit des grands auteurs panafricanistes qu'il découvre dans les squats parisiens, où il fréquente certains rastas, certains elders. Parce qu'il faut aussi, peut-être pour remettre dans le contexte, comprendre que dans les années 80, être un jeune noir dans les quartiers populaires, c'est être coupé de son histoire. Et donc, pour beaucoup de jeunes noirs, le reggae apparaît aussi comme vecteur d'éducation. Les chanteurs reggae, les ragamuffins, sont un peu les griots urbains qui racontent l'actualité et qui disent « Hey, nos ancêtres, c'est pas les Gaulois, nos ancêtres, c'est eux, il leur est arrivé ça, et nous, si on est dans cette condition-là, c'est pour telle raison. » Ça, David, il en a conscience tout de suite. Et pour lui, il va toute sa carrière être intransigeant là-dessus. Il jouera avec le show business, mais il n'oubliera jamais d'où il vient, et sa culture générale surprendra beaucoup de gens.
Et beaucoup d'artistes vont s'inspirer de lui, vont exprimer d'ailleurs leur fascination pour l'homme, tu parlais de charisme tout à l'heure, et pour ce qu'il a bâti par son esprit, son talent. Je pense à un duo, c'est Neg Marron.
Est-ce que tu sais jusqu'où les gangsters vont devoir aller pour survivre? Tu dois comprendre comment la misère peut pousser certains.
Neg Marron et Tonton David.
Est-ce que tu sais jusqu'où les gangsters vont devoir aller pour survivre? Tu dois comprendre comment la misère peut pousser certains au pire.
Tu veux croquer ton auréole contre deux cornes et une queue. Tu veux être un caïd, un élément dit dangereux. Depuis tout petit, t'es fasciné par les armes à feu. Si t'as choisi la vie de voyou, prends ça au sérieux.
Car dans ce milieu, ça ne plaisante pas. Vivre dangereusement te tente, à toi de faire ton choix. D'autres y ont laissé des vies sans même comprendre pourquoi. Tu flirtes avec le meurtre, le matin te guette au moindre faux pas. Quand tout ça, penses-tu à ta maman?
Maman pleure, son fils est encore en prison.
Il a foncé tête baissée sans peser ses actions. Ce qui était mauvais ou était bon.
Est-ce que tu sais jusqu'où les gangsters?
Les gangsters,
gangster, le titre, je vois mon Mathieu Salabert heureux d'entendre à nouveau, de réentendre ce titre-là. Tonton David, aux côtés de Neg Marron, c'est la génération, ils sont plus jeunes, hein, Benji et Jackie sont un petit peu plus jeunes et ils avaient en admiration, tu l'écris, tu en parles dans l'ouvrage. Moi, c'était le père de Jackie aussi.
Ouais, c'est ça, c'est le père de Jackie qui avait ramené le blues des racailles à la maison et le blues des racailles était devenu le disque de chevet de la famille et chez Jackie et chez Benji. Et pour le coup, il y avait aussi une transmission entre deux générations qui était vraiment intéressante parce que à l'époque où sort ce duo, y a plusieurs choses. Le reggae est un peu en train de se gentrifier. On commence à entendre à la radio le reggae des campagnes, ouais. De trio, mais un reggae sans basse, alors c'est un petit peu étonnant. Et puis il y a aussi le reggae un peu rock de Sinse Emilia. Tonton David, c'est pas ça. Tonton David, c'est le reggae qui est né dans les quartiers populaires, comme le reggae est né en Jamaïque. Et Neg Marron, c'est le reggae des quartiers. Il est totalement dans cette filiation. Donc forcément, il y a une logique à ce que ces artistes se rencontrent. Et Jackie, d'ailleurs, toute sa carrière, à chaque fois qu'il croisera David, fera montre d'un grand respect pour lui. Et ils n'ont pas été beaucoup à avoir ce respect tout au fil de la carrière, même quand David était au plus bas.
C'est vrai. Alors, je disais Neg Marron, Jackie, Benji, mais dans ce titre-là, il y a Jamatic aussi. Ils sont trois. C'est encore le moment où Neg Marron, puisqu'on a entendu la voix, le flow de Jamatic.
Tout à fait. Et Jamatic, pour le coup, va inviter David sur son album et poser un duo aussi qui est assez exceptionnel, quoi.
Ouais. Gangster, c'est ce titre-là. Des gangsters, David en a fréquenté. J'ai cité tout à l'heure Rue de Lyon, paix à son âme, qui a été assassiné. Et il y a une histoire très forte entre eux.
Ah oui, c'est une histoire très forte puisque ils se rencontrent en fait en prison. Et puis ils vont jamais vraiment se quitter. Parce qu'il y a chez eux une amitié fraternelle qui est mue en même temps par leurs conditions, par leur amour de la musique, par aussi leur culture, cette conscience d'avoir un message de l'underground à porter, avec un jusqu'au boutisme qui sera d'ailleurs plus chez Rude Lyon que chez David, qui lui aura une manière de voir son évolution musicale un petit peu différente. Donc c'est deux frères d'armes, deux frères de musique, qui pendant très longtemps vont faire la réputation du reggae des ragamuffins.
Et puis Rude Lyon qui, même s'il s'est mis un peu en marge de la musique, mais il a produit, il a mis l'argent qu'il gagnait là, il pouvait le mettre également dans des productions.
Oui, alors Rude Lyon en plus, c'est quelqu'un qui participe de près ou de loin au Hi-Fi Fight le International, qui est le premier sound system de David avec Nutty, Paulino, avec Fefe Typical, avec Tip Top. Et pour le coup, quand le Blues des Racailles est composé, il y a différentes versions qui existent. Mais ce qui est certain, c'est que Rude Lyon n'est jamais loin. Paulino est toujours là, et même si c'est Tilox qu'on a crédité, en fait, il participe activement donc à ses compositions, ses mix, etc., etc. Pour le coup, ce qui est intéressant avec Rude Lyon, c'est le destin croisé, puisque à un moment donné, donc Rude Lyon avait un côté bad boy qui lui jouera des tours, et avant de jouer un live sur Canal+, il se retrouve arrêté suite à une baston à la locomotive, et donc il se retrouve au cachot. Et ça, c'est pas possible. David, lui, il essaye de se professionnaliser, il essaye de monter un business un business qui doit être carré. Il a conscience qu'on peut pas être trop rock'n'roll. Et pour le coup, la période que Rude Lyon passe au placard, David, lui, va la passer à composer le nouvel album Allez leur dire. Mais et oui. Quand Rude Lyon écoute Allez leur dire, il dit mais c'est pas possible. Ça, c'est plus que moi je veux défendre. Et donc pour le coup il y a une sorte de scission qui a là, une scission qui sera très difficile à vivre des deux côtés parce que c'est une amitié vraiment fraternelle. Moi j'ai parlé à beaucoup de très proches de David et je crois pouvoir dire que sur la fin de sa vie, la fin de la vie de Marc, de Kemar, de Rude Lyon, David regrettera de pas s'être réconcilié, de pas être là le jour de l'enterrement. Mais il n'aura pas été là. C'est aussi une réalité. David, c'est un sacré caractère.
Oui,
on n'est pas en train de parler de gens qui sont des bisounours. on est en train de parler de gens qui sont des météorites, quoi. Mmh. Artistiques, intellectuels, existentiels.
Si vous nous rejoignez, en ce jour, nous recevons Alexandre Grondeau. Il vient de faire paraître aux éditions La Lune sur le Toit, Tonton David, le prince des débrouillards. C'est un ouvrage exceptionnel. Et je le dis en ta présence, cher Alexandre, moi qui ai très bien connu Tonton David et mon frère bien plus encore, Eric, puisqu'ils ont travaillé ensemble. Et tout ce que tu dis de lui, le personnage qu'il était, quelqu'un de pas facile du tout, qu'on pouvait passer de tout à rien. Et c'était, mais on aimait, il était tellement attachant, on aimait tellement David et on lui pardonnait tout. On parle de David et il y a une de ses chansons où il se résume, c'est mon CV. Si vous nous rejoignez sur la radio du monde, nous rendons tous les honneurs à l'homme que l'on appelle Tonton David. Émission exceptionnelle dans ses couleurs tropicales que vous pouvez réécouter si vous le souhaitez évidemment sur RFI Pure Radio.
Respectez leur passé.
Mon CV, tonton David.
Parce que c'est mon CV, je te donne mon CV. Mon CV, je te donne mon cœur et que l'on vitesse. Oh écoute, mon CV, je te donne mon CV. Tchop. Mon CV, je te donne mon cœur et que l'on vitesse. 67 tontons sur la planète. Respect papa, merci la matière. 70 la première fois que j'ai vu pleurer. Maman dans la série, pas facile pour une négresse, ça rit pas. 73 c'est notre toute première garba. On agresse les billons, joue les malfrats. 78 on vole les Adidas. Les taquinis dans tous les sports de mille. 79 on se met dans la retine. Pas dans le métro, seulement pour marcher.
Écoutez bien.
80 rendez-vous à Vincennes.
Tout ce qu'il dit.
Au terrain cross pour taper les CM.
Est vrai.
81 c'est l'époque Chevara. Un 500 VIX c'est balance pour la pape. 82 c'est l'époque la pétard. T'as la plume, t'es pareil, on y va. 84 de retour dans la retine. Pas dans le métro, pas Orléans et Roissy. 85 dans les substances chimiques. Je sais, on me l'a déjà dit, c'est triste. 86 on touche les premiers matiques. Sans chiffonner, on règle les choses, c'est pratique. 87 peut pas dire ce que j'ai fait. 87 j'étais yoncé, j'étais 88. Début de notre carrière musicale avec le son de système iPad international. Dans les chants d'atombolines, on fait typical. T'as des notices, c'est toi le DJ face. 89 on embellit leur partie. Un peu cher et sur la péniche, rubé de la même année, on leur fait. Peuple du monde, les risques et mamie officielle à Paris. Les DJ ne m'aiment pas, mais le public apprécie. C'est dans toute la France et les dom-toms, on sait dites-leur que 90 on tombe en célébrité. 91 on est dans le top 50. 92 avec un bécon d'enfant. Et de bon tonton David et les rissons intelligents. Quand on rentre dans les dansons, les dansons. On a une dédicace que pour les blancs, une dédicace pour les blacks. Et de bon tonton sur le bâton national. Bigonnet, bigonnet, pas dépisé, bigonnet, bigonnet. Parce que c'est mon CV, j'te donne mon CV, tchao. Mon CV, j'te donne mon cœur et que la vitesse. Oh écoute, mon CV, j'te donne mon CV.
Mon CV, ce titre-là est un classique, hein. C'est culte, un tonton David. Alors, on a parlé des hauts et des bas. On va tout à l'heure, parce qu'il naviguait entre deux mondes et il était à l'aise dans les deux mondes dans lesquels il œuvrait, c'est le cas de le dire. Et puis, je voudrais te remercier avant cela, cher Alexandre, parce que pour celles et ceux qui ont vécu cette période-là, tout ce que tu racontes, les personnes que tu cites, lorsque l'on a vécu cela, on se dit le travail d'Alexandre Grondeau est un travail extraordinaire parce que, mais vraiment je te le dis du fond du cœur avec une grande sincérité, lorsque tu parles des Supa John, de Pupa Leslie, de Dixie Culture, de Speedy P, lorsque tu parles de Tiwoni qui était déjà là, Azrock également, lorsque Guy Alemsi, alors c'est le Metal Sound, voilà, c'est la Martinique et tout cela, on a parlé de Bob Marley, on a évoqué Bob Marley. Il, quand même, il travaille avec Tyrone Downey, quand même.
Écoute, bah déjà, je suis flatté que tu puisses dire ça et que les gens qui l'ont très bien connu et apprécient ce livre, parce que c'est vrai que c'est mon rôle en tant que fondateur de Reggae.fr de faire ça, mais c'est aussi mon rôle parce que David a été oublié, quoi. La ministre de la Culture oublie de rendre hommage à sa carrière.
Te coupe 30 secondes. Avec Erika, dont nous allons parler dans un instant, avec Princesse Erika, On a discuté avec le ministère de la Culture en disant faut faire quelque chose, quelques réunions à distance. Oui, effectivement, on va faire. Et rien n'a été fait. Non. Ça a été presque une insulte à la mémoire de David et à ce public, à celles et ceux qui l'ont aimé et qui l'ont porté.
C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Et la raison, c'est aussi de raconter une époque qui est invisibilisée dans la culture française et c'est problématique. C'est véritablement problématique parce qu'on se coupe d'avant-garde francophones qui ont été très importantes, qui ont été poétiques, qui ont été engagées, qui ont été politiques. Pour revenir à ce que tu disais sur cette période-là, Tonton David, il a un point commun avec Bob Marley. Bob Marley, au 56 Hop Road, faisait venir tous les gens du ghetto, les artistes, les top modèles, les musiciens, les journalistes. Tonton David à Champigny, quand il ouvre sa maison, oui, on retrouve tout le monde. On retrouve des artistes, on retrouve des mafieux, on retrouve des cinéastes, on retrouve le voisin, le mec du PMU, un amateur de tiercé. Et tout ce monde-là est autour de David, qui a un charisme fou, qui éclaire la pièce quand il rentre. Et donc, pour moi, ça paraît important de raconter ça, d'autant qu'il était très fier de dire que dans sa vie, il avait été le voisin de Jean d'Ormesson.
Exactement. Et puis cette maison-là, il était fier de cette maison parce qu'il l'a payée avec sa musique, avec son œuvre, avec ses deniers. Et comme tu le dis, alors il y avait un studio également dans une des dépendances. Et il était fier de cette maison.
C'était sa réussite. Il avait mis sa famille à l'aise.
Les premiers enfants et tout ça.
Écoute, c'est un moment qui est important dans sa vie parce que quand il a cette maison, c'est là aussi où il commence à se dire qu'il va laisser quelque chose de plus important dans la musique et qui va mettre son talent au service des autres. Et il commence à réfléchir à ce qui va donner l'album Sans Limite, la compilation Sans Limite, et qui va réunir ce qu'il estime être la fine fleur du reggae en France. Il y a Erika, il y a Azrock, tu les as tous cités, il y a Negmaron. Et au final, c'est vrai que son modèle, c'était un peu de faire la Motown reggae français, ou ce que d'ailleurs Kenzie a fait avec le Secteur A.
Exactement.
Le temps lui a pas permis, parce que le fisc est arrivé trop vite et l'industrie de la musique va pas faire en sorte que là où elle a aidé Florent Pagny et Johnny Hallyday, Tonton David, lui, va être laissé sur le carreau.
Elle n'a pas aidé ce noir-là.
Non, c'est factuel.
Ouais, c'est factuel. Et on se souvient effectivement des ennuis, obligé de vendre la maison.
Il le chante.
Ouais.
Rappelle-toi quand il chante toute cette période-là, à partir de la fin des années 90 jusqu'au début des années 2000, avec son dernier titre qui passe sur Skyrock, il raconte. C'est ce qui est incroyable avec David, c'est que il écrit ce qu'il est en train de vivre, et son talent de la rime et de la mélodie font que tout un chacun a l'impression que ça lui arrive.
Tonton David sur France 2, dans une belle interview d'ailleurs, où la journaliste essaie de comprendre le personnage qu'il est devenu, les raisons de cette réussite, et il répond.
Selon vous, le vrai ghetto, c'est l'ignorance ?
C'est de ne pas ressentir le besoin de savoir. Parce que l'ignorance, en fait, ça peut pas être un ghetto, parce que on est pour apprendre, c'est pas le problème. Mais c'est le fait de ne pas avoir besoin de savoir, de ne pas ressentir le besoin de savoir.
Le manque de curiosité, en fait.
Un petit peu. Tout est lié à l'ignorance, de toute façon. Tout est lié au fait de ne pas vouloir aller voir de l'autre côté ce qui se passe. Ça peut pas être la solution de la violence en tant que telle, mais je pense que c'est au moins une piste.
Alors, un autre titre intitulé Les portes du pénitencier parle de la prison. C'est une expérience que vous avez connue également lorsque vous étiez jeune. Vous dites la prison pour mineurs, c'est la première école pour voleurs. Faut pas mettre les jeunes en prison quand ils sont mineurs.
Aujourd'hui, pour des jeunes de 15-16 ans, maintenant, il faut connaître les dossiers pour savoir ce qu'il faut faire, s'ils sont multirécidivistes ou pas. Mmh. Mais maintenant, il faut absolument aider les familles qui ont des enfants en bas âge. Et je parle d'enfants de 3 à 4 ans pour pouvoir élever leurs enfants dans la dignité. Et peut-être que ça générera moins des jeunes contingents qu'ont la haine comme ça.
Tout petit déjà.
Moi, j'ai l'impression qu'il
faut... À 15 ans, c'est trop tard.
À 15 ans, si tout le monde est déjà sur sa voie, ça fait déjà beaucoup d'années de ressentiment d'injustice. Il y a des jeunes qui naissent dans des quartiers, ils ne doivent pas être handicapés pour toute leur vie. Même pour la scolarité surtout. Alors on nous dit que l'école est gratuite, mais en même temps, vous avez le droit à l'école communale. Du quartier où vous habitez, mais vous n'avez pas le droit d'aller un peu à côté si c'est une école qui est un peu plus calme, c'est pas normal.
La solution aussi, c'est peut-être de renforcer la famille.
Je pense qu'il n'y a que ça, c'est pour ça qu'il faut se mettre un petit peu dans la famille, regarder un petit peu les familles qui ont des jeunes enfants de 3 à 4 ans, et dès maintenant, essayer de les aider, c'est pas les mettre dans le luxe, c'est juste les aider à... Comme je dis, faut un peu de dignité, il faut leur donner plus de dignité, puis on s'apercevra qu'à 15 ans, ces mômes-là, peut-être qu'ils verront les choses autrement que les jeunes qu'on... qu'on peut voir maintenant.
Il est impressionnant, Tonton David, dans cette interview. Il a à la fois une conscience politique, une conscience des difficultés sociales du pays, des disparités dans le pays. Et on comprend que Tonton David fascine toute une intelligentsia, que ce soit des intellectuels, des politiques. Il fascine parce qu'il n'est pas l'archétype, enfin l'idée que l'on a du banlieusard afro.
Non, en fait, David d'ailleurs le disait depuis le début, il chante pas pour les quartiers populaires, il chante pour les pires conditions des quartiers populaires, parce que lui les a vécues. Il a vécu le foyer pour mineurs, il a vécu la prison, et en fait l'analyse qu'il porte, elle est simple, c'est que l'extrême pauvreté amène, bon an mal an, à l'extrême violence, l'extrême difficulté. Et le débrouillard, la racaille, parce que lui il en fait un terme qui va être presque positif, mais la racaille, le débrouillard, c'est celui qui trouve des solutions alors qu'il est dans le caniveau, c'est le hustler jamaïcain.
Il est Césaire lorsqu'il s'approprie le terme de racaille et qu'il en fait quelque chose de positif, Césaire, nègre et la négritude. On le disait, il passe d'un univers à un autre. Il fréquente les lieux les plus hype de Paris et les personnes les plus en vue. Et tu le cites, tu parles de France Gall, on me dit avec France Gall, avec Valérie Le Mercier aussi.
Il fait partie des enfoirés.
Tonton David, c'est aussi cet homme qui sait rendre hommage à celle à qui il doit tant, sa mère.
Il y a tant de femmes dans mon cœur et c'est elle ma number one. Allez, garde bien ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur et c'est elle ma number one. Neuf fois beau chaud dans son ventre, je n'avais besoin de rien. Après c'était pas une autre qui m'a donné son sein. Elle m'a tendu sa main dès que j'en avais besoin. Quand j'habitais chez elle, je n'avais jamais faim. Elle a travaillé dur, oui ça j'en suis certain. Elle a fait mes blessures, oui ça j'en suis témoin. Oh je l'aime tant. Laisse-moi dédier cette chanson pour maman. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Allez, l'air bien ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Allez, l'air bien ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one.
Ma number one, un titre que l'on retrouve sur l'album Allez leur dire. Là encore, c'est un classique pour bon nombre d'entre nous. Je voudrais qu'on parle d'une autre femme qui a pleuré David. Nous étions ensemble au moment des obsèques de David. C'est Princesse Erika. Il y a quelques années avant sa mort, avant la mort de David, Vidda, et moi je suis très heureux que tu l'appelles Vidda, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait tous, que dans le livre tu dis Vidda, je le précise pour bien dire aux uns et aux autres que cet ouvrage-là est important si vous voulez savoir qui était tonton David, quelle fut sa vie et son parcours. Voilà, c'est pour ça que tu es dans la sincérité et dans la vérité, dans l'authenticité, alors je te le dis encore, merci. Je voudrais revenir sur un épisode de télévision. On est sur France 3 et Marc-Olivier Fogiel avec son émission On ne peut pas plaire à tout le monde qui souvent se permet d'être dans l'irrespectuosité vis-à-vis de ses invités et ce qu'il a fait à David pour moi est inacceptable. Alors il reprend les propos de Princesse Erika où, alors je résume, elle dit de lui il fait de la musique, ok d'accord, mais aujourd'hui il fait de la musique pour l'argent. En gros je résume. C'est une phrase sortie un peu de son contexte.
Complètement sortie de son contexte.
Pour employer la formule. Ouais,
ouais. L'interview dure 2 heures.
Et je te laisse poursuivre parce qu'après, lorsque David est sur le plateau de Marc-Olivier Fogiel, il tente de l'humilier.
C'est ça. Ce qui caractérise pour les plus jeunes les Marc-Olivier Fogiel quand il est animateur de cette émission, c'est son agressivité. On est à une époque où David est plutôt dans un creux au niveau de sa carrière. Ils interviewent Princesse Erika. Ils font 2 heures d'interview et ils prennent une pastille de 15 secondes où elle dit, en forme de conseil, « Oui, tu devrais faire ceci, cela. » Et là, on voit David qui aurait pu s'énerver, qui encaisse le coup d'une manière très, très classe. Et derrière, Fogiel lui dit « Oui, mais enfin bon, parce que bon, vous êtes un peu au niveau de la Rousseau. » Donc pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, la Rousseau, c'était vraiment la quintessence de la musique de variété jetable, qui n'avait rien à voir avec la musique conscience de David. Et il la compare genre « Bon, ben voilà, maintenant que vous êtes un ringardos. » et David encaisse les coups. Et je sais qu'il est très touché à ce moment-là. Mais ça montre aussi une partie de sa personnalité. C'est quelqu'un qui est pudique et qui n'aura jamais trahi ce qu'il était avec lui-même. Il se sera jamais plaint. Il sera jamais allé dire « oui, voilà, ma situation, elle est comme ça ». Il va trouver des solutions malgré des grosses difficultés. Et même quand les médias se moquent de lui, bah écoute, il est là et il avance.
Il s'est quand même fâché avec, avec Erika.
Elle a été piégée. Elle lui le regrettera. Ouais. Elle lui écrira une lettre manuscrite. Et 2 ans plus tard, ils se retrouveront avec bonheur, parce que c'est la grande sœur, Erika.
Oui.
Ils se sont accompagnés depuis le début. Voilà, elle est sur les cœurs de cash du titre. Elle sera sur sa compile de Sans Limite. Elle le suit. Elle fera des tournées avec, ses premières parties, en Suisse notamment. Pour elle, c'est un moment qui est dur de voir ses propos manipulés ainsi et jetés à la face de millions de Français.
Ça a été un moment effectivement difficile, je m'en souviens, pour en avoir parlé avec lui. Et comme tu l'as dit, il s'est encaissé ces coups-là, en tout cas, parce que c'est quelqu'un de très digne. Ça me rappelle une histoire, lorsqu'en 93, Éric Thiard organise la tournée aux Antilles de Tonton David, et on est à Basse-Terre. Et on est dans un magasin de fringues, et il y a la patronne du magasin qui regarde tous ces rastas. Je crois qu'Yovo était dans le magasin aussi, on était quelques-uns. Bref, et cette femme le méprise, elle dit « oui, les gens comme vous, elle ne savait pas ». Et sa vendeuse lui dit « c'est Tonton David ». Et il lui sort sa carte, elle pense que c'était la gold qui était à la mode. Il lui dit « vous pensez que j'ai pas les moyens de vous payer ?» C'est-à-dire, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas d'autres magasins que je vous achète les... Tenez, je vous en prends 4 moi-même, des pantalons. Tenez, allez, payez-vous. Tout ça pour dire
Mais oui, parce que la France de l'époque, c'est une France où le noir, en particulier Rasta, est méprisé. On est dans des conditions qu'on voit beaucoup moins de gens de couleur à la télévision. Et donc, il y a cet a priori qu'il affronte et qu'il participe... À faire diminuer, puisque petit à petit, je le dis, et vraiment c'est important pour moi parce que sa trajectoire illustre une forme d'intégration, c'est que il ne se renie pas, il reste fidèle à ce qu'il pense, à ce qu'il dit, à ce qu'il chante, même si certains ayatollahs du reggae vont dire qu'il se variétise. Dans les lyrics, il ne se renie pas,
ouais.
Il avance, et au contraire, il met le reggae à un autre level. Et en mettant le reggae à un autre level, il met aussi la condition des Noirs Rasta à un autre niveau.
On ne pourra pas tout dire de lui, j'aurais aimé qu'on parle de sa famille, de ses enfants. Il quitte, il est loin de Paris, loin de tout ce tumulte parisien, de ce showbiz parisien. Il vit dans l'est de la France, c'est là où il terminera sa vie.
C'est un exil choisi, c'est un exil parce que il n'en peut plus du show business, du milieu parisien. Il a des aussi, on va pas se mentir, il a des dettes et des soucis un peu partout. Il décide de repartir à zéro comme un débrouillard. Et pendant 15 ans, il va travailler dur pour revenir avec un album qui ne verra pas le jour parce que il décède malheureusement avant de l'avoir terminé. Et ces 15 années de sa vie sont assez folles parce que il fait montre d'une capacité de résilience que peu auraient pu avoir. Cet artiste qui a été partout à la télé, qui a vendu des centaines de milliers d'albums, repart de zéro dans un bled de Moselle avec rien. Comme un ragamuffin. Et pendant 15 ans, la vie va repartir. Alors, il gardera quelques amis à Paris. Eric, voilà, quelques-uns, Casso, il reviendra à Paris. Mais c'est vrai que pour lui, c'est un moment qui est un peu plus difficile.
Ouais. Francky aussi.
Francky, bien sûr, qu'il n'a jamais vraiment quitté, avec qui qu'il allait voir jouer au foot, etc.
Mais oui, exactement. Tonton David, dans le cinéma aussi, c'est une personnalité. Avec cette chanson que tout le monde fredonne encore, et c'est un classique. Écoute ça.
Chacun sa route, extrait. Chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin.
Et cette chanson est extraite de la bande originale du film Un Indien dans la ville. Et cette chanson-là, c'est vrai, elle est là, elle est toujours là, elle est toujours diffusée.
Et
alors, il y a Geoffroy Riema à ses côtés et Manu Katché. Voilà.
Tout à fait, et c'est une chanson qui a failli ne jamais sortir parce que la maison de disque, quand elle a entendu le titre, a explicitement demandé à ce que ça ne soit pas un titre reggae. Et David a posé son veto et a expliqué que ce titre serait reggae ou non. Le clash est allé tellement loin qu'il a quitté les studios, il est parti. La maison disque a essayé de le rattraper. La maison disque a proposé un mix qu'il a refusé, qui n'était pas bon. Yovo n'était pas content. Ils sont repartis dans un studio du Nord parisien pour faire leur mix. Yovo, David et Timour. Et pour le coup, ils ont renvoyé à 5h du matin le titre mixé reggae. La maison disque l'écoute, dit non, c'est pas ça, et comble du ridicule. En fait, la maison disque avait réécouté le morceau qu'elle avait elle-même mixé, et elle accepte finalement le morceau reggae qui devient le hit dont tu as parlé, morceau emblématique. Je crois qu'Un Indien dans la ville, c'est 8 millions d'entrées. Ouais. Et pour la petite anecdote, le morceau fera double disque d'or, je crois même disque de diamant, et à la fin, vu que ça s'est pas très bien fini avec tous ses compères, il dira. Qu'il était très content que le reste de l'album ait pas marché, il leur a montré que le reggae était au top.
Exactement, le mépris pour le reggae, et lorsque l'on est déterminé à faire valoir ses droits et les droits de cette musique-là, eh bien c'est le succès que nous connaissons. Sincérité, vérité, identité, j'aimerais que l'on écoute, avant de se quitter, il nous reste très peu de temps, que l'on écoute David, justement, parler d'identité.
À un moment donné où j'ai changé ma façon de vivre et tout, ça a été un moment donné où je me suis retourné beaucoup vers mon identité, où j'ai beaucoup recherché un peu à travers mon histoire et tout, où justement des choses qui avaient aucune importance pour moi avant, l'histoire de la Réunion, me rapprocher de l'Afrique, ça avait eu aucune importance. Et puis à un moment justement, j'ai essayé de me retourner vers ces valeurs, c'était un moment où ma vie elle a changé aussi. C'est pour ça que je m'accroche vachement à cette valeur, qui est quand même la valeur première du reggae, quand même, c'est cette espèce de retour aux sources. C'est ce qui différencie un peu le reggae à toutes les autres musiques. C'est que le reggae, ça a vraiment la démarche de vouloir revenir aux sources, de vouloir connaître l'Afrique dans sa splendeur.
C'est Alexandre Grandeau qui vient de donner de la voix là. C'est, pour une fois, ce n'est pas moi. On va terminer justement avec cette chanson. Tu as évoqué cet album qui était en phase de finalisation. Et qui sortira ou ne sortira pas, parce que je sais qu'il y a le fils aîné qui a décidé de faire un autre mix. Enfin, c'est tout ça est très confus. On attend, on espère. Et lorsque l'on écoute David parler, lorsque l'on écoute Vida avec une vraie démocratie, lorsque l'on sait le sens politique qu'il avait, je me suis dit, mais qu'aurait-il dit aujourd'hui? En ce 6 février 2025, au regard de la situation de cette France, de ce pays-là.
Ah, il aurait eu beaucoup, beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, il y a parmi les morceaux de cet album dont tu parlais, beaucoup de choses intéressantes. Là, je chantais parce que c'est un titre auquel je tiens beaucoup, parce qu'il y a un autre album qui n'est jamais sorti de David, Tonton
Mais oui.
and Friends.
Mais oui, mais je sais bien.
et voilà, que Eric Serre a produit. Et là aussi, il y avait des sacrées pépites. Mais pour finir sur l'identité, David, c'est quelqu'un qui, quand il était jeune, il faisait croire à tout le monde qu'il était dominicain.
Ouais.
En fait, quand il arrive à La Réunion pour son premier concert, Paulino, son DJ, découvre qu'il est réunionnais. Et en réalité,
la famille Gramont.
Oui, et en réalité, quand j'ai fait mon enquête, partout dans les médias, on dit oui, il est réunionnais, mais j'ai récupéré l'état civil de David, qui est né à Paris.
Oui.
14e.
Alors on dit qu'il. Bon, d'accord.
J'ai l'état civil.
Bon, ben voilà.
Écoute, alors.
Voilà, tu vois.
Ben et voilà. Ça a été pas facile, ça a pas été. Mais bon, pour l'identité, David, c'est quelqu'un qui aurait expliqué les qualités de la différence, de l'altérité, du mélange et du métissage. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous manque énormément.
Il nous manque énormément.
Énormément.
Tonton David, le prince des débrouillards aux éditions La Lune sur le toit. C'est l'ouvrage de notre invité Alexandre Grandeau. Merci infiniment et je le dis encore et encore pour celles et ceux qui voudraient vraiment savoir qui était ce roi du reggae. Eh bien, offrez-vous cet ouvrage-là, Tonton David, le prince des débrouillards d'Alexandre Grandeau. Merci infiniment Alexandre.
Merci Claudie.
Merci mon frère. Merci.
Chacun les mêmes droits, les mêmes lois. Une vraie égalité, rendez égal l'Afrique son autonomie. Pour que les nègres d'hommes puissent apprendre leur identité.
Bon, dis donc, c'était bien, c'était même super. On se retrouve demain.